Nzamba
Nzambi rasamirana
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de la radio Nzambagate Kakawe. Nous sommes dimanche 2 juin 2024. C'est le grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Nzamba Agate Kakawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Rebonjour ou rebonsoir, ouvrons cette rétrospective sur un dossier de justice. C'est dans 30 jours que le sort du général Alain Guillaume Bougnoni et ses co-accusés sera connu. C'est ce qu'a annoncé le président de la Cour suprême au moment de l'audience publique de 2 jours du procès en appel d'Alain Guillaume Bougnoni. Néanmoins, les peines requises par le ministère public sont exactement les mêmes qu'à le premier procès. Puisqu'il s'agit de la prison à vie pour l'ancien premier ministre et 15 ans de réclusion pour les 3 autres co-accusés. Tous les 4 ont continué de nier toutes les allégations portées contre eux. On fait le point avec Alexandre Niungeko.
Le général Alain Guillaume Bougnoni est resté campé sur sa position. Selon l'ancien premier ministre, le ministère public ne dispose d'aucune preuve de cette accusation qui pèse sur lui, dont le complot a envie de changer en régime constitutionnel. Le complot contre le chef de l'État ou encore l'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique. Pour lui, il devrait ni plus ni moins être acquitté. Par ailleurs, il s'est opposé à la saisie de ses biens, expliquant entre autres qu'il possède 20 propriétés, dont 15 sont sous contrat de vente au nom des membres de sa famille et qui n'auraient donc pas dû être l'objet de confiscation. La veille à la question de savoir pourquoi il aurait fui le jour de la fouille de sa résidence, Alain Guillaume Bougnoni a argué qu'il avait été informé de l'intention de l'assassiner et qu'il ne voulait pas subir le même sort que les généraux Adolphe Chimimana et Athanase Kararouza, dont selon lui, les meurtriers n'ont jamais été arrêtés. Mais le ministère public n'en démord pas, puisqu'il a demandé à la Cour suprême de confirmer la peine requise en première instance, et donc la perpétuité, la saisine de ses biens et un dédommagement de 24 milliards de francs burundais. Même son de cloche du côté de ses 3 co-accusés, Désiloua Mahoro, Destin Samuel Bafumukeko et Komun Dachaïsava, tous poursuivis pour complicité de complot en vue de changer un régime constitutionnel, ils ont plaidé non coupables, arguant que toutes les charges portées contre eux ne sont qu'un montage et demandent l'acquittement. Le colonel de police Désiloua Mahoro, qui s'est le plus défendu, a indiqué qu'il est anormal qu'il soit condamné pour des faits qu'il juge faux. Selon lui, le ministère public ne dispose d'aucune preuve, surtout qu'il lui est reproché la divulgation d'un secret qu'il ne lui a jamais été confié. Pour lui, il devrait être libéré et retrouver ses fonctions au sein de la brigade bien anti-émeute. Le ministère public, de son côté, semble n'avoir tenu compte d'aucune explication. Maintenant, la peine de 15 ans de prison requise auparavant. Emmanuel Gateretse, le président de la Cour suprême, qui présidait la séance, a annoncé que l'affaire est mise en délibéré et que le verdict sera prononcé dans 30 jours.
Merci à toi, Alexandre Niungeko. Le chapitre des droits de l'homme a fait également la une de l'actualité durant cette semaine écoulée. La surpopulation carcérale dans les prisons, le manque d'hygiène sont cités parmi les éléments qui affectent la santé et la dignité des prisonniers. C'est le contenu du rapport de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, à Katbundi, un rapport sorti ce 30 mai 2024. Anita Gateretse, coordinatrice des projets au sein de la Katbundi, fait savoir que le manque d'hygiène dans des toilettes et des salles de bain peut causer des maladies transmissibles à grande échelle. Parmi les exemples, c'est la prison centrale d'Omimba, menacée par l'insalubrité. Écoutez plutôt Madame Anita Gateretse.
Dans les prisons surpeuplées comme la prison d'Omimba, il se remarque que les ressources nécessaires sont souvent limitées. L'insalubrité est encore plus prononcée. Les normes internationales telles que les règles Nelson Mandela soulignent l'importance de maintenir des normes d'hygiène élevées pour protéger les droits humains des détenus. La prison centrale d'Omimba a été érigée en 1959, conçue à l'origine pour accueillir les 800 détenus et héberger au 30 avril 2024 une population carcérale de 13 456 prisonniers, soit 16 fois plus peuplés par rapport à sa capacité d'accueil. Cette surpopulation engendre de nombreuses difficultés, notamment en matière d'hygiène et d'accès à l'eau potable. La prison centrale de Mimba comptait initialement environ 45 sanitaires et quelques points d'eau potable. Au sein du quartier des femmes, la situation est particulièrement déplorable avec seulement 5 toilettes pour environ 300 prisonnières. Cependant, avec l'augmentation continue du nombre de détenus, l'extension des installations sanitaires et de sources d'eau potable n'a pas suivi son rythme. Quoique certaines ONG comme l'OCICR aient apporté des contributions, l'hygiène des détenus reste à désirer. Cependant, malgré ces efforts, ces installations restent insuffisantes face à la surpopulation carcérale persistante. Les files d'attente pour utiliser les toilettes et prendre des douches sont longues, surtout le matin et le soir. À plusieurs reprises, les détenus ont passé des semaines sans eau potable, ce qui a gravement affecté les conditions de vie et la santé des prisonniers, surtout au moment des périodes de pandémie comme la COVID-19, la pandémie de la rougeole et aussi la conjonctivite virale. ACAT Burundi lance un appel vibrant à toutes les parties prenantes pour améliorer les conditions d'hygiène à la prison centrale de Mimba. Nous demandons au ministère de la Justice et à la Direction générale des affaires pénitentiaires d'augmenter l'accès à l'eau potable et multiplier les points d'eau potable à l'intérieur de la prison, mettre en œuvre des mesures urgentes et pérennes pour désengorger les prisons afin de maintenir un effectif raisonnable et gérable, promouvoir l'hygiène et la bonne santé en assurant la disponibilité des moyens et des ressources nécessaires.
Abordons à présent le chapitre de la sécurité. Beaucoup de militaires burundais ont été capturés au cours de ce mois de mai par le mouvement M23 dans les combats à l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. La télévision en ligne Mama Rwagasabo est allée les rencontrer. La plupart disent qu'ils sont allés combattre le mouvement M23 sans même être informés de leur mission. Ils pensent qu'un jour ils retrouveront leur famille. Écoutez certains d'entre eux.
Moi, je m'appelle Ajuda Chef Nyandu Chrysostome. Je suis originaire de la colline Mugomera, commune et province Ngozi. Ici au Congo, j'étais dans le 9e bataillon Tafok. Au Burundi, j'étais dans le 322e bataillon. On est arrivé ici au Congo le 3 février de cette année. Pour arriver ici, on est arrivé par Goma. On nous a embarqués dans un bateau dans le lac Kivu. Je ne me souviens plus où on s'est arrêté. Puis on est monté. Moi, j'ai été capturé le 3 mai dans la localité de Rukara. Ce qui s'est passé avec mon équipe, on était devant et on n'a pas su que les autres s'étaient déjà repliés. Quand nous avons décidé de se replier nous aussi, c'était trop tard. Et les éléments du M23 nous ont capturés à Rukara. Au Burundi, nous avons été envoyés ici. Nous ne savions pas ce que nous allions faire après. On nous disait que nous allions en être informés sur place. À l'armée, c'est comme ça. Il faut respecter les ordres et se taire. On nous a embarqués dans un avion, un cargo du Congo, et arrivé ici, on nous a dit que notre mission était de combattre le M23. Je m'appelle Ajidan Dikumana Félix. Je suis de la commune Vianda de la province Burundi. Je travaillais dans le 122e bataillon à Ugarama. Je suis arrivé ici au Congo le 3 février. J'ai été capturé à Gisagara Burambi le 3 mai. Dans notre bataillon, la plupart des militaires ne voulaient pas venir. C'est pour cela qu'on nous a caché qu'on devait venir ce jour-là. On nous l'a dit vers midi, alors que le départ était fixé à 16 heures. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir aux gens. Je m'appelle Ajida Chef Nkurunziza Richard. Je travaille à l'état-major de la première division. Je suis originaire de la commune Rutovu à Bururi et j'ai ma famille à Bujumbura. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai été blessé dans les combats. Mes compagnons avaient continué le chemin. Je suis arrivé à une position militaire. En réalité, c'était notre position qui avait été récupérée par les éléments du M23. Ils m'ont demandé où étaient mes compagnons. J'ai répondu qu'ils étaient partis loin et ils m'ont gardé. C'est comme ça que j'ai été capturé dans la localité qui s'appelle Mukasi. Pour nous envoyer ici au Congo, on a dû faire d'abord une sélection pour faire un bataillon qui devrait être envoyé ici. À l'armée, on vous désigne et vous ne faites qu'exécuter les ordres.
Il n'y a pas longtemps, le président Evariste Ndayishimiye avait nié bel et bien dit qu'il n'y a pas de militaires burundais qui sont allés combattre le mouvement M23 et que même les captifs démontrés sont plutôt des rebelles du mouvement Red Tabar.
Inzamba.
À compter de ce jeudi dernier, il est interdit de stationner devant les stations-service pour attendre le carburant sur la file d'attente. La mesure vient d'être annoncée par la police. Selon le colonel Désiré Ndouimana, porte-parole de la police burundaise, c'est pour mieux assurer la sécurité. Il demande également à ne pas risquer de conduire un véhicule qui n'a pas suffisamment de carburant, car selon lui, lorsqu'il s'arrête par panne bête dans une voie publique, il cause du désordre. Selon lui, cela ternit l'image du pays. Je vous propose de l'écouter.
Dans le but de faciliter la circulation sur les voies routières, et dans le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'inspection générale de la police nationale rappelle au Burundi, aux exploitants des engins roulants, qu'il est strictement interdit de faire des rangées de véhicules le long de la route ou sur les stations en attente de carburant. Il est plutôt souhaité que celui qui veut s'approvisionner en carburant s'informe et sache sur quelle station il y a du carburant, qu'il vienne et prenne le carburant dont il a besoin. La même inspection en profite pour rappeler au conducteur que le comportement qui consiste à conduire un véhicule sans avoir suffisamment de carburant et connaître une panne sèche et arrêter son véhicule au milieu de la route est punissable par la loi. Il en va de même pour les autres engins roulants, les motos et les tricycles. Il est donc interdit de laisser son véhicule pendant des jours et des jours, des heures sur la station en attente de carburant.
Selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, cette mesure n'est pas du tout une solution pour résoudre ce problème de carburant. Cette organisation propose l'importation du carburant en quantité suffisante. Mais que pour cela soit possible, il faut que le gouvernement dispose de devises suffisantes. Suivez Jean Bosco Ndouimana, il est le porte-parole de l'ORICOM.
Au niveau de l'ORICOM, nous avons crié haut et fort depuis longtemps envers le gouvernement du Burundi de pouvoir geler en bon père de famille les produits pétroliers, de pouvoir geler les moyens pour pouvoir s'en approcrer les produits pétroliers. Et surtout, il fallait geler les devises parce que un pays sans devises suffisantes ne peut pas se procurer des carburants suffisants pour pouvoir satisfaire aux transportateurs. Donc, nous avons recommandé au gouvernement du Burundi de procéder plutôt à la gestion. Si on n'aime pas que les véhicules fassent une queue, il faudrait tout simplement chercher un carburant suffisant pour dissuader son comportement d'alignement. C'est vrai, cela n'apparaît pas comme il faut dans les yeux des passagers, dans les yeux des étrangers qui vivent, qui passent dans notre pays. Ce n'est pas bien, mais il n'y a pas d'autre choix. Ces véhicules, quand ils viennent stationner, quand ils viennent former une queue tout près de la station, c'est pour avoir les sopes de carburant qui viennent. C'est pour que le carburant qui vienne, les quelques litres, dizaines de litres qui viennent, c'est pour que les véhicules qui se mettent devant puissent s'en procurer, puissent en avoir, puissent être servis. Alors, quand vous êtes à la maison, un véhicule se trouve à la maison, ne sera pas si le carburant se trouve dans la station. La seule solution pour éviter cela, pour promouvoir la sécurité routière, c'est d'avoir le carburant suffisant, c'est d'avoir les devises au niveau de la banque centrale en suffisance pour aller acheter le carburant dans les pays étrangers. Donc il n'y a pas d'autre choix.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, retenez que 19 organisations de la société civile burundaise ont sorti une déclaration 28 mai 2024 dernier demandant au gouvernement tanzanien d'arrêter le projet de rapatriement forcé des réfugiés burundais prévu en décembre 2024. Ces organisations interpellent la communauté internationale et la communauté est-africaine de tout faire pour contraindre le gouvernement tanzanien à revenir sur sa décision injuste à l'endroit des réfugiés burundais vivant sur le sol tanzanien. Suivez Elari Nibizi, elle parle au nom de ces organisations signataires.
Les organisations de défense des droits humains signataires de cette déclaration ne sont pas du tout rassurées par le message d'apaisement contenu dans la déclaration du représentant du HCR au niveau régional qu'il a publié le 22 mai, et parce que ce sont des paroles qui ne montrent rien les procédures de mettre fin aux mesures contenues dans la feuille de route de rapatriement forcé. Suite à cela, nous avons exprimé une demande. Nous demandons avec insistance au gouvernement tanzanien de cesser les mesures coercitives qui visent le rapatriement forcé et de se conformer aux conventions internationales protégeant les réfugiés et notamment la convention de 1951 sur les réfugiés. Nous demandons au HCR d'honorer ses principes de protection des droits des réfugiés et surtout quand il s'agit des réfugiés burundais en Tanzanie. Nous demandons également au HCR de garantir une réinstallation des réfugiés burundais qui le souhaitent dans un autre pays d'accueil du moment que la Tanzanie montre des signes qu'il ne veut plus des réfugiés burundais sur son territoire. Nous demandons à la communauté de l'Afrique de l'Est d'utiliser les pouvoirs qui lui sont reconnus pour empêcher la Tanzanie de violer les droits des réfugiés. Nous demandons à l'Union africaine d'exiger à la Tanzanie de respecter ses obligations en matière de protection des réfugiés et de personnes déplacées telles que stipulées dans la déclaration de Kampala. Nous demandons à la communauté internationale d'exercer une pression déterminante sur le gouvernement tanzanien afin qu'il sursoie au processus de rapatriement forcé qu'il a prévu avant décembre 2024. Nous demandons aussi aux pays contributeurs de l'aide aux réfugiés de revoir à la hausse l'aide aux réfugiés burundais afin qu'ils puissent vivre avec dignité dans les camps où ils sont.
Voilà, madame, monsieur, auditeurs et auditrices de la radio Nzambagate Kakawe, c'est par-ci que nous mettons un point final à ce grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Niongele et je vous souhaite de passer un bon dimanche chez vous et à la prochaine.
Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.